quartier des arts sur un quai de gare. Dès 2022, le MUDAC, Musée de design et d'art appliqué, et le Musée de l'Élysée, dédié à la photographie, rejoindront le Musée cantonal des Beaux-Arts sur le site de Plateforme 10. Pour Philippe Bischoff et Patrick Guiguer, ce quartier des arts à deux pas de la gare de Lausanne s'annonce sous les meilleurs auspices. Dans ce moment de discussion, le directeur de Pro Helvetia souligne l'importance d'un espace public accessible et d'institutions ouvertes. Le nouveau directeur de Plateforme 10 fait lui le pari du dialogue entre les musées et d'une relation avec les artistes et les histoires locales suffisamment riche pour intéresser bien au-delà du canton.
Plateforme 10, c'est une opportunité assez unique de transformer vraiment cet environnement proche de la gare de Lausanne. Donc il y a une proximité évidemment des voyageurs en transit ou du touriste de passage qui est intéressante. Il ne s'agissait pas de regrouper les musées juste pour créer un espace dédié à un quartier des musées. Je crois que ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que le type de musée que l'on regroupe sont des musées qui sont tous en lien avec les arts visuels et qui abordent les arts visuels de façon singulière, chacun avec différentes histoires, différentes collections, différents rapports à l'art actuel, à l'art contemporain, et que ce dialogue-là, en fait, m'intéresse particulièrement. C'est comment, sur non pas des thématiques communes tout le temps, mais comment est-ce que les œuvres et les visions des conservateurs, des directeurs, de tous ceux qui travaillent dans les musées vont se refléter dans les autres lieux aussi. Ça, c'est vraiment très particulier, je trouve, et c'est possible parce que ça a été pensé comme justement un quartier où les choses naissent maintenant à peu près au même moment, puisqu'il y aura moins de 3 ans entre la naissance du MCBA et du bâtiment Élysée MUDAC. Donc je crois que c'est assez différent d'un quartier des musées où les bâtiments ne dialoguent pas forcément. Il y en a beaucoup de quartiers des musées dans le monde. Je crois qu'ici, vraiment, le fait que ce soit aussi un quartier des arts nous permet d'envisager d'autres pratiques artistiques et un autre rapport que simplement au patrimoine. Enfin, ce qui m'intéresse dans la culture, plutôt, c'est le projet politique. Et le projet politique, ici, il est celui de toucher les gens, bien sûr, mais c'est aussi celui de créer ce nouveau quartier qui va être un lien entre la gare et l'Ouest lausannois très fort. Et en effet, il y aura un impact sur le déplacement des gens. Il y aura une attraction, je pense, et une attractivité de cet endroit qui sera, je l'espère, forte. C'est pour ça qu'on développe d'autres propositions que les propositions muséales. Il y aura les propositions de restauration et à terme encore d'autres projets pour que les gens s'accaparent cet espace.
Ouais, ce qui m'intéresse tout d'abord, si on parle plateforme 10, avant de parler des arts, c'est deux choses que je trouve très importantes dans les temps qu'on vit. C'est la défense de l'espace public accessible ou libre, on peut dire, et de l'institution, et surtout de l'institution culturelle. On sait tous que ces deux éléments dans nos démocraties qui sont attaqués, qui sont plus complètement évidentes. Moi, je suis du côté de ceux qui défendent les deux. J'ai pas le moindre problème avec l'idée de l'institution si, et maintenant on va parler des arts, si c'est accessible, si c'est ouvert, si ça s'occupe des questions politiques, de société, de transformation, d'engagement, etc. Donc ce qui pour moi est vraiment très exemplaire, c'est que cette ville a osé attaquer ce projet, ce qui est un grand projet avec plein de risques, tout près de la gare, dans un quartier plutôt fonctionnel ou bien entre tous, je trouve ça magnifique. C'est pas le quartier le plus beau qu'on s'imagine, c'est pas au bord du lac, c'est vraiment au centre-ville où il y a beaucoup de choses qui se passent, où il faut chercher sa place. Et l'autre aspect que je trouve vraiment exemplaire, et j'admire beaucoup Lausanne pour cet esprit, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, c'est vraiment l'idée de la collaboration, de la coopération, de la coexistence. de plusieurs disciplines, d'institutions différentes. Et je pense que ce qui me plaît beaucoup, c'est vraiment qu'on prend ce risque, je dirais bien calculé dans le sens que ça fait du sens énormément, mais c'est pas évident, c'est pas gagné dès le début. Et je trouve que c'est un projet très rare en Suisse.
Je crois que Plateforme 10 se doit de collaborer à plusieurs niveaux. Hein. Comme j'ai dit, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que c'est un temps T très particulier, où les musées sont en train de naître, sortir de terre. Donc, on a des opportunités là aussi. Et un lieu spécifique, comme vous l'avez mentionné, à côté de la gare, qui permet une accessibilité très importante. Donc, le but, ça va être d'ouvrir au plus grand nombre. Après, moi, je pense qu'il ne faut jamais oublier la population locale, les artistes locaux, tout en n'étant pas régionaliste hein, non plus. Quoi. Donc en fait, j'aimerais dire qu'on peut jouer sur tous les tableaux. Moi, j'ai passablement travaillé en passé avec des musées nationaux à Taïwan, en Estonie, avec Pompidou et des choses comme ça. Moi, j'aimerais qu'on puisse continuer ces partenariats, non pas dans le but de faire venir des Parisiens nécessairement, mais d'amener des perspectives différentes et nouvelles ici, sans oublier justement qu'il y a un devoir un peu quand même d'attractivité, puisqu'on est sur un projet à la fois culturel et un projet d'aménagement urbain dont le but est aussi de mettre Lausanne un peu plus sur la carte des capitales européennes culturelles, mais en tout cas Suisse, c'est déjà sans doute le cas, ça sera encore plus le cas. Je pense que le visiteurat de Suisse alémanique viendra, puisque les Suisses alémaniques ont tendance à se déplacer. Enfin, on a vu que déjà la première année d'existence du MCBA, ça a été largement le cas. Les Genevois, bon, naturellement, ça sera un peu plus compliqué. Moi, ça, c'est encore un autre débat. Mais moi, je pense que la perspective qui a été prise ici par le Musée des Beaux-Arts, qui est celle de jouer sur ses forces, qui sont les collections qui existent et une singularité de point de vue, me semble la bonne voie. Plutôt que de faire des grandes expositions itinérantes sur Gauguin ou que sais-je, enfin, non pas que j'aime pas Gauguin, la question n'est pas là, mais je pense que la relation avec les artistes du territoire, avec des histoires locales, enfin, le terreau est largement assez riche pour qu'on puisse tisser des fils pour faire des projets qui intéressent même des gens en dehors de ce canton.
Oui, ce que moi je trouve super, c'est que les conditions de base sont excellentes. Il y a une architecture qui attire, qui fait parler, aussi par le fait qu'elle est faite, cette architecture dans laquelle on se trouve, par des architectes qui ont construit quelque chose à Coire et à Zurich. Donc déjà, de ce côté-là, il y a quelque chose de très suisse. On peut voyager par trois régions suisses pour comparer comment ces architectes construisent des lieux culturels. C'est peut-être un peu superficiel, mais c'est un point d'accès que je trouve intéressant. Puis après, l'ancrage local, je trouve essentiel. J'ai toujours trouvé essentiel, mais on a vu maintenant comment il est risqué si on perd l'ancrage local pour légitimer les institutions culturelles. Et après, bien sûr, pour sortir, pour interconnecter, etc. Et moi, je pense quelque chose qui m'intéresserait, comme on attaque ça comme directeur de cette plateforme, c'est de comment on fait, disons, ce petit virement qu'il faut, à mon avis, qu'on arrête un peu de parler de l'extérieur des musées. On a énormément parlé d'architecture et plus grand, extension, etc. Et pour revenir à parler des contenus, des possibilités, des potentiels. Et c'est exactement ce que moi, quand j'entends Plateforme 10, c'est ce qui résonne chez moi, ce potentiel de dire non, on parle de création, de collaboration et aussi d'ouverture. Donc, moi, j'ai aucun souci, vu que c'est un projet unique, que c'est un projet qui n'est pas en concurrence, mais qui complète très, très bien le paysage culturel suisse.
Une diversité de projets pour une diversité de publics. Patrick Guiguer, directeur de Plateforme 10, engage une bataille. Son but, permettre au plus grand nombre de se sentir légitime d'entrer au musée. Pour Philippe Bischoff, directeur de Pro Helvetia, cela passe sans doute aussi par une capacité à co-définir différentes formes de qualité qui n'est pas en contradiction avec la notion de popularité.
Et on voit bien, par exemple, en fin d'année passée, quand on présente Kiki Smith, par exemple, ici au MCBA, c'est une artiste qui est reconnue, mais qui n'a pas une grande visibilité, qui n'est pas une star non plus. Mais ça, vraiment, voilà, ça attire du monde. Et en parallèle, Anne Rocha, qui est une artiste vaudoise, reconnue ici, mais que les gens qui, enfin peut-être l'étranger, n'ont pas repéré. Donc ce jeu sur plusieurs plateaux, sur plusieurs niveaux, me semble vraiment intéressant. Vous l'avez dit, c'est la question du moi qui est essentielle, hein, je pense. C'est à partir du moment où on a activé le lieu, on a vu que le lieu était bien, etc., c'est tout se passe dans ce qui est présenté et la manière de le présenter. Moi, je ne crois qu'à ça, qu'au contenu culturel qui est proposé, qui doit être audacieux, qui doit être pertinent, qui doit avoir une vision politique, comme vous le disiez, hein, même si on présente des choses du XVIIIe siècle, ça doit entrer en résonance avec le monde dans lequel on vit. On a aussi un devoir de préservation et de présentation d'un patrimoine qui est un bien commun. Il faut vraiment, je pense, se souvenir de ça. Hein. Je veux dire, ça appartient aux personnes ici de ce territoire. Et il faut créer les conditions d'accessibilité les plus importantes possibles. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette tension entre l'exigence dans les salles et l'accessibilité la plus grande. C'est-à-dire que plutôt que de faire des choses très facile, que tout le monde connaît, et de faire payer très cher, je préfère faire des choses difficiles et que ce soit gratuit. Donc moi, je pense qu'il faut amener les gens, non pas par une notoriété de tel ou tel artiste, mais par vraiment les conditions d'accès. Je l'ai beaucoup dit, hein, la convivialité des lieux, l'ouverture, hein, et c'est en invitant entre autres aussi des partenaires qu'on va pouvoir faire ça. Lorsqu'on aura... des gens qui sont en résidence à la BEC, qui viendront faire de la musique ici, eh bien, ça va attirer les personnes qui suivent ces réseaux-là, sans jamais déroger, évidemment, à la qualité.
Je ne sais pas comment vous vivez ça, même je me souviens, j'étais invité à l'inauguration, quand c'était encore complètement vide, et ce qui m'a beaucoup touché, à part le lieu que je trouve très, très bien fait, très beau, c'est comment on a senti la fierté des gens. C'était énorme. J'étais vendredi encore une fois, dimanche, c'était plein. Et les gens étaient vraiment touchés. Et on a compris, moi j'avais compris, j'avais aussi eu des discussions, que la construction de ce projet, qui est un projet politique et après culturel et en même temps les deux, était très bien fait par des politiciens. Ce n'était pas juste un top-down qui atterrit, mais on avait l'impression que les gens avaient vraiment suivi ce processus. Et maintenant, le défi est bien sûr de tenir cette énergie, cette dynamique qui était là, mais j'ai l'impression que ça a très, très bien démarré avec ce que vous dites, avec cette ouverture, accessibilité, c'est exactement ce qu'il faut. Prendre au sérieux le public.
Alors c'est sûr que moi, je n'ai pas de crainte en plus avec l'ouverture du deuxième bâtiment, que ça va vraiment créer un effet d'attractivité important. Après, il faut toujours penser ces lieux sur le long terme aussi, et qu'ils vivent une vie. Voilà, ces lieux sont là pour durer, quoi, et il faut que leur vie elle soit inscrite dans un environnement local qui ne le rejette pas, en fait, ce projet. Et on voit très bien, on en reparlait encore aujourd'hui du Guggenheim Helsinki, par exemple, qui est un projet qui avait été rejeté par la population, par les artistes locaux, etc. Et en effet, on sent ici une forme d'adhésion quand même importante à ce projet, que je trouve assez admirable par rapport à un projet culturel, parce que c'est pas si facile, en fin de compte, de faire accepter qu'on dépense de l'argent pour le projet. Enfin, vous le savez aussi bien, voire mieux que moi, pour des projets culturels.
Ouais. Peut-être un dernier point qui m'intéresserait, c'est de discuter la dimension. J'ai l'impression, si je me trompe pas, qu'entre Bienne et Genève, il y a nulle part cette dimension d'espace ouvert et en principe libre, en principe. Et je pense que ça aussi, c'est un atout. Je me souviens de toute façon, quand j'étais là, à l'ouverture et à l'inauguration, les deux, il y avait beaucoup de gens du théâtre qui ont dit « ici, je veux faire quelque chose, ça m'attire ». Et c'est aussi parce que les dimensions étaient nouvelles dans cette région. Et je pense que si on arrive à vraiment mettre à disposition ces dimensions, j'aime bien le mot parce que c'est quoi la dimension, c'est ce qu'on en fait après, je pense qu'il y a exactement cette chance de d'ancrer avec la scène locale pour après faire rayonner les contenus vers, disons, le monde, au moins la Suisse, non?
Je pense qu'il manque un peu encore un espace un peu plus sale. Ici, ça reste quand même assez... on a quand même un environnement muséal avec des conditions d'hygrométrie, de température contrôlée, etc. Donc, on ne peut pas tout faire. Mais c'est vrai que les dimensions se prêtent bien, je trouve, à des nouvelles pratiques. Parce qu'aujourd'hui, Et après avoir lu votre texte récemment sur comment est-ce que on doit participer à la transformation, en fait, plutôt que d'être transformé par les crises que nous vivons. Les domaines des pratiques contemporaines, ils sont plus liés à une seule forme. Et on voit que Théo Mercier, par exemple, il commence comme plasticien, ensuite il se retrouve à faire des performances musicales, des performances avec un cascadeur et un danseur. Voilà, on est dans des pratiques aussi qui sont protéiformes. Et je me réjouis que ce lieu, justement, et ça a déjà été le cas, mais continue à poursuivre le développement, on va dire, de ces pratiques-là.
Ouais. Ce que moi, je trouve très intéressant aussi, si on se rappelle où on est, c'est le voisinage. On est très proche de plusieurs choses. On en a parlé des trains, de la gare, juste de la ville, des voisins qui vivent là. Et puis, il y a les disciplines qui sont des voisins. Et je pense que si on arrive à qu'est-ce qu'on fait avec les voisins, il y a toujours un peu de timidité, et puis on commence à faire connaissance. Donc, pour moi, c'est vraiment aussi une image d'une société, non? Comment est-ce qu'on apprend à coexister, cohabiter, puis se parler, etc. Et là, je trouve que vous avez vraiment une fonction magnifique de rapprocher. C'est aussi pensées différentes, parce que c'est finalement des pensées différentes, mais qui ne sont pas si différentes pour ne pas collaborer.
Oui, et puis ce sera des regards croisés, je pense. C'est ça qui moi, m'intéresse. Et je pense qu'au-delà de cela, il y a l'activation sur plein de petites formes. Moi, je crois vraiment qu'il y a des rythmes qui sont différents. Il y a le rythme de l'exposition, c'est le rythme long, hein, que l'on vient. On sait qu'il y a une exposition pendant 2 mois, 3 mois. Klimt, Kokoschka, La Peau, Vienne, 1900. Voilà, l'exposition dure 3 mois. Mais en parallèle, il y a des petites formes, des petites activations performatives, des rencontres, des conférences, des projections, des choses qui peu ambitieuses si on veut au niveau de l'ampleur du projet, mais ambitieuses artistiquement ou intellectuellement. Là, par exemple, quand j'étais à Nantes, on a lancé un cycle de cinéma expérimental pour les enfants, par exemple, avec des films d'artistes. Bon, voilà, c'est des choses qui sont faciles à mettre en place, qui demandent assez peu de promotion, etc., et qui n'ont l'ambition que d'amener progressivement les gens vers des formes peut-être plus complexes. Et ça, à partir du moment où la méthode permet de rendre les choses accessibles, on peut progressivement montrer des choses voilà, qui sont très ambitieuses, mais qui ne sont pas toutes non plus difficiles, mais qui sont ambitieuse. Donc c'est vrai que ce quartier, il va permettre aussi avec ces espaces extérieurs que vous mentionnez, il n'y a pas beaucoup de lieux. Je crois qu'au Musée d'Art et d'Histoire à Genève, s'il y avait eu du courage politique, il y aurait pu y avoir ce genre de forme. Ici, c'est vrai qu'il y a une transformation, mais très importante du tissu urbain, quoi. Et c'est assez fascinant de voir que ça a été possible. Moi j'aime bien le populaire de qualité de Nicolas Bidot, quand même. Ça a été décrié, mais en fait, je crois qu'il faut mettre les choses à des endroits différents. Populaire, c'est la manière dont on s'approprie le projet. C'est-à-dire que le fait d'être ouvert, ce dont on a parlé. De qualité, c'est ce qui est présenté. Et ce n'est pas du tout incompatible. Parce qu'en fait, il n'y a pas un seul public. Il y a plusieurs publics. Donc en fait, les propositions, comme je disais, il y a des propositions sur les temps longs des expositions, et les propositions ponctuelles ou récurrentes de conférences, projections, que sais-je. Et puis, il y aura des temps forts de type festival aussi, ou des rencontres, on va imaginer des projets. L'Élysée à la nuit de l'image, par exemple, qu'on va reconduire, il y aura d'autres propositions de ce type-là. Il y aura des invitations à des festivals lausannois, ou peut-être même neuchâtelois, qui sait, soyons fous, ou zurichois, à venir investir le site, parfois à des petits endroits, parfois à des plus grands endroits, j'espère. Et c'est comme ça qu'on arrive à attirer des publics multiples, quoi, qui se superposent. Et je crois que le public qui ne vient pas pour le projet artistique ou le projet culturel, c'est aussi à lui qu'on va s'adresser. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours joué cette carte où on vient en fait boire un café ou boire une bière, ou on vient parce qu'on a installé, on a fait un pique-nique géant à l'extérieur, ou on a fait venir du marché, et en fait, on désacralise l'institution. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, la première vraie problématique, c'est ça, ici. C'est qu'on est dans un environnement qui est de l'ordre du temple de l'art. Donc comment est-ce qu'on casse les barrières, comment est-ce qu'on désacralise pour que les gens s'approprient et se sentent en droit de venir voir les projets qui en fait forment le cœur du propos qui sont les expositions.
Je pense que si on parle de diversité, de popularité, il faut parler de qualité. C'est quelque chose qui souvent est mis comme contradiction. Moi, je le vois différemment. Comme vous dites, la qualité, il ne faut pas l'oublier, c'est une construction. En culture, on a souvent le problème qu'il y a une qualité prédéfinie. On croit que ça, c'est la qualité qui avait été définie, je ne sais pas où et par qui, mais elle est là. Et ce qui m'intéresse, et c'est pour cela, par exemple, il faut aussi parler des réseaux sociaux, de l'Internet, c'est comment on voit, si on l'aime ou non, comment là-dedans, les qualités sont construites différemment. D'une part, et d'autre part, c'est d'autres gens qui ont la possibilité de définir des qualités. Donc, ce qui m'intéresse dans la notion de la popularité, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive du populaire d'abord à l'idée de la diversité, vraiment vécue et acceptée, parce que des fois c'est désagréable. Et puis après, de là est née une sorte de qualité qui peut être différente de la qualité qu'on aime nous et qu'on connaît nous. Et je pense que pour revenir à ce lieu, à ce centre, à cette plateforme, il serait très intéressant de vraiment risquer aussi de redéfinir les qualités. Il y a des collections avec des qualités énormes, et c'est de nouveau les qualités qui était définie, magnifique encore une fois. Maintenant, quelles sortes de qualités viendront? Et je pense que si un lieu comme Plateforme 10, maintenant le musée, les autres qui viendront, arrivent à inviter les gens à co-définir les qualités, ça serait très intéressant. Et puis là, on arriverait à une possibilité d'avoir une diversité qui n'est pas la diversité des styles ou bien des disciplines qui, de nouveau, très souvent, se retrouvent dans cette bulle culturelle qui est très importante, mais qui est une bulle, mais qui risque de vraiment sortir de ce cadre. Mais ça, c'est le grand défi, à mon avis. Et puis, ouais, je pense que c'est un défi très intéressant pour l'attaquer, non?
Oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, les périmètres, on va dire, de ce qui est acceptable culturellement, il est en évolution très rapide. C'est-à-dire que si on avait dit il y a 20 ans que quelqu'un qui fait du black metal extrême allait être invité à la BEC comme artiste sérieux et qu'ensuite on pourrait le faire venir ici, c'était impensable. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils sont en on comprend qu'ils sont en fait en grande proximité avec les compositeurs contemporains, par exemple. Et c'est ça qui est assez fascinant. C'est qu'en fait, on peut attaquer les propositions culturelles autrement que par le regard purement académique, si on veut, quoi. Et je dis pas qu'il faut faire des expos de super-héros, dans les musées, c'est pas ça. Mais en tout cas, il y a des chemins qui sont vraiment multiples. C'est ce que vous disiez, c'est qu'il faut essayer de suivre les nouvelles qualités artistiques qui sont en train d'être rendues visibles ici. Elles sont multiples.
Puis après, là, ça m'intéresserait comment vous voyez-vous la diversité, parce que j'observe, on a aussi nous établi un programme diversité, que très souvent en Suisse, c'est mal entendu comme les quatre langues ou les régions différentes. C'est bien sûr une sorte de diversité, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres qui ont de la peine à entrer dans le système culturel. Je ne sais pas si vous avez déjà mené des réflexions sur ce que pour vous serait une diversité qui vous rend heureux, mais ça m'intéresserait d'entendre.
Alors ça, c'est vraiment une question qui est la question de la diversité qui est très complexe, parce qu'en fait, en réalité, si on s'adresse à certaines minorités, par exemple, on risque de créer quand même des espèces de bulles, si on veut, et de projets qui sont un peu auto-centrés. Et ça peut arriver. Ou alors, on va chercher des gens, et en France, encore plus dans le contexte où je travaillais, on contacte par exemple avec des acteurs sociaux dans les quartiers vraiment très difficiles, et après on les amène dans les musées, tout ça. Mais cette recherche de public un peu forcée et contraint, je la trouve assez problématique. Aujourd'hui, je crois que personne n'a vraiment la réponse à cette question de savoir comment créer la diversité. Je pense qu'il faut aussi, si ce n'est, je crois, un peu par cette convivialité, et le fait que les gens se sentent bien et non pas repoussés par... qu'ils se sentent en droit, en fait. Donner l'accès, que les gens se sentent en droit d'accéder à ce musée, c'est déjà vraiment une première bataille qui serait gagnée, si on veut, quoi. Après, on ne peut pas intéresser tout le monde à tout. Et je pense qu'il faut revendiquer le droit qu'il y a des gens qui n'aiment pas voir des expositions, qui n'aiment pas certaines propositions, mais il faut au moins qu'ils puissent se faire leur propre avis. Moi, je n'aime pas le foot, hein, a priori. Si on me force à aller voir des matchs, et quand je suis genre à l'école, puis je vais voir un match, ok, bah, j'aime pas. Et ensuite, si on me dit, bon, bah, c'est gratuit, il n'y a pas besoin d'acheter un billet 150 francs, la bière est pas chère, bon, je vais quand même une fois aller voir peut-être ce qui se passe. Et après, je vais avoir très peur de tous les supporters de ça, donc je vais partir, peu importe. Mais je crois que c'est la mise en condition qui est importante aujourd'hui et qui pourra créer une forme de diversité culturelle. Mais il y a évidemment des publics qui sont plus difficiles à atteindre que d'autres. Et ce n'est pas, il y a toujours moyen de faire des espèces d'écrans de fumée, hein, de propositions où il y a une diversité de genre ou d'origine sociale, ethnique, etc., qui apparaît. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours la bonne solution.
Quand j'étais encore à Pâle, on a beaucoup discuté exactement pour les musées ces questions qu'on discute maintenant. Et une des réponses venant de la politique, c'était toujours entrée libre. Puis on a cité Londres comme exemple, Tate, etc. Est-ce que pour vous, c'est une possibilité, une solution? Quel est votre positionnement envers l'idée de l'entrée libre?
Pour moi, la gratuité pour le public, je précise pour le public parce que pour nous, ce qu'on fait n'est jamais gratuit, bien sûr, c'est un facteur qui est déterminant, en fait, parce que dans la pratique, moi, je trouvais qu'il était déterminant. Même s'il y a toujours une certaine réticence parfois à voir des projets. Enfin, il y a toujours culturellement, peut-être en Suisse particulièrement, mais pas seulement, cette idée que si on ne paye pas pour quelque chose, ça n'a pas de valeur. Alors, mais ça, je pense qu'il faut dépasser ça. Alors évidemment, il y a la question purement. Enfin, nous, il faut quand même qu'on rentre un peu des financements. Hein. Pour moi, tout ce qu'on peut faire gratuitement va dans le sens du projet. Moi, dans mon cas, par exemple, vraiment purement personnel, quand j'étais adolescent, jeune adulte, quand je visitais les musées ou j'allais au théâtre, le premier frein, c'était le frein financier. Et j'ai pu aller beaucoup genre, au Théâtre de Vidi, par exemple, à Lausanne, parce que j'avais un ami qui y travaillait. Donc, je pouvais y aller gracieusement. À partir du moment où j'étais étudiant en histoire de l'art, je pouvais rentrer dans la plupart des musées à peu près gratuitement ou vraiment pas très bon marché. Donc, cette idée d'accessibilité financière, elle est importante. Au lieu unique où je travaillais avant à Nantes, en avril 2020, puisqu'on était en pleine pandémie Covid-19, on a annulé l'ensemble de la programmation jusqu'à la fin de l'année. Et à la rentrée, en septembre, on a rendu toute la programmation, même en spectacle vivant, gratuite. Parce qu'on vraiment, on s'est dit, il faut faire travailler les gens, donc on va programmer des choses. Et le public qui commence à souffrir économiquement de cette situation, il faut qu'on lui donne cet accès pour revenir au projet culturel. Évidemment, ça s'est arrêté après 2 mois de nous, parce qu'il y a la deuxième vague. Mais tout était en diffusion sur Internet gratuitement, et tout était gratuitement dans la salle. Enfin, il y a eu des spectacles, des vrais spectacles, qui normalement coûtent très cher, enfin assez cher pour le public à aller voir, qui était en accès gratuit. Et le public qui est venu, ce n'était pas notre public habituel. Hein. Et ça a été très flagrant. C'était des gens qui clairement n'avaient pas les moyens ou ne voulaient pas mettre les moyens et qui sont venus par curiosité et qui ont pu être touchés par des propositions simplement parce qu'ils avaient envie de venir voir ce que c'était sans que ça impacte à la fois leur budget. Enfin voilà, il y a une curiosité qui était plus facile en fait à satisfaire avec la gratuité.
Je trouve ça très intéressant parce qu'on a parlé de qualité avant, maintenant on parle de valeur, et on peut inverser les deux. Hein. dans tous les côtés, mais je trouve très important de dire, surtout dans les arts où la valeur domine aussi les discussions, le discours, la valeur, c'est la popularité dans le bon sens, avec du contenu, avec vraiment, avec bien sûr une idée d'informer sur quelque chose, de faire parler, etc. Mais je pense que ce lien m'intéresse beaucoup, cette chaîne, on pourrait presque dire, de popularité, diversité, gratuité, accessibilité, toujours pour défendre les valeurs qui nous sont chères, je crois, à nous deux, mais différemment. Je pense que ça, c'est vraiment, si on parle d'institutions culturelles en général aujourd'hui, pour moi, c'est un des grands défis qu'il faut vraiment attaquer, tout d'abord au niveau politique et médiatique, de quoi on parle comme qualité.
Ça, c'est très important parce qu'en fait, on est quand même jugé à l'aune du nombre de visiteurs, souvent. Hein. Et moi, je me souviens que Michel Thévaux, qui était mon professeur à l'université, qui était le directeur de la collection de l'art brut, il disait, oui, OK, il y a la quantité de visites, mais aussi la qualité de visites. C'est-à-dire, moi, quand je vois ici au Musée des Beaux-Arts l'exposition de Giacometti, des aquarelles, des gens qui restent une heure, deux heures dans une salle de 50 mètres carrés et regardent chaque œuvre pendant 20 minutes, je me dis que ça touche quelque chose de l'ordre du sensible qui est important. On ne peut pas la quantifier nécessairement, cette qualité de visite, mais je pense qu'elle est importante. Et comme vous le disiez, je crois que le glissement vers la qualité doit se faire de façon la plus simple possible. C'est pour ça que, une nouvelle fois, la gratuité, et là, on a la chance que, dans ce canton, en tout cas, l'accès aux collections, il est gratuit. Donc, toutes les collections permanentes, les accrochages des collections seront en accès libre. L'espace contemporain, l'espace projet est aussi en accès libre. Donc, il y a toute une partie quand même du site qui va aussi être en accès libre. Le défi, c'est de faire glisser le public de l'extérieur du site, des cafés, vers l'intérieur du site. Avec, évidemment, la contrainte du fait qu'on est quand même dans un espace régulé thermiquement, qui possède des biens très précieux, qui doit être surveillé, etc. C'est vrai que dans le lieu que je dirigeais avant, le lieu unique, il y avait un glissement qui était plus facile, parce que les œuvres n'étaient pas du même type, il n'y avait pas des réserves avec des chefs-d'œuvre, des choses comme ça. Donc on pouvait faire des propositions, et c'est pour ça que j'aime bien. Il y avait des fêtes qui ensuite, les gens allaient dans les salles d'exposition qui étaient ouvertes. Et voilà, il y avait une mixité de public là, qu'on arrivait à créer avec ce genre de choses. Mais je pense que dans quelques années, il est possible, j'espère, que ce site y vive de façon... étendue, que ce ne soit pas un site qui vive de 10h à 18h.
Le musée, un lieu de débat étendu grâce au numérique. Si la visite in situ des expositions reste au cœur des ambitions de Plateforme 10, le numérique révèle ses atouts pour des projets artistiques spécifiques. C'est un des moyens de faire vivre le musée, certes, mais il ne doit pas faire oublier l'importance de la connexion avec les artistes vivants et avec leur processus de recherche. Le numérique permet surtout de répondre à deux préoccupations clés de Patrick Guiguer et Philippe Bischoff, la volonté d'élargir le débat et celle d'améliorer la diffusion des savoirs.
Pour moi, l'expérience du rapport numérique, des réseaux sociaux, etc., pour les musées, est assez compliquée, je trouve, parce qu'aujourd'hui, si je prends mon téléphone et je cherche Matisse, j'ai toutes les images de Matisse qui apparaissent. Hein. Pas de souci, hein, je peux regarder Matisse. Alors, personne ne fait ça. Enfin, très peu de gens font ça, on va dire. Klimt, vous n'avez pas envie de regarder sur votre ordinateur. Vous avez envie d'une expérience particulière. Et je crois que c'est ça que les gens cherchent, qu'il faut essayer de leur donner, c'est l'expérience sensible. Ce que je dis souvent, le rapport au sensible, et pas du tout... C'est le partage du sensible dont on parle ici. C'est ça ce qu'on essaie de créer dans un environnement muséal. C'est peut-être possible, c'est sans doute possible sur les réseaux, sur Internet, avec des outils et des objets qui sont créés dans ce but-là. C'est-à-dire que là, transposer cette expérience-là, muséale sur le net, médiée sur le net, me semble complexe. Par contre, créer des propositions avec des artistes sur le net, moi je pense au NetArt d'il y a 20 ans, Jody.org, toutes ces choses-là, qui était folle quoi, à l'époque, et qui créait des expériences assez incroyables. Et aujourd'hui, il y a d'autres expériences de ce type-là qui sont créées, sans doute. On a de plus en plus, les artistes travaillent avec la réalité virtuelle. Il y a Laurie Anderson qui a travaillé avec un artiste taïwanais sur un projet qui s'appelle Camera in Sabiata. Voilà, ce qui sont les expériences que les gens peuvent vivre dans leur propre salon, mais qui sont conçues pour ça. Ce n'est pas une transposition d'une œuvre qui a été créée dans un autre contexte. Hein. Mais c'est possible. La musique, ça s'écoute à la fois en concert, ça s'écoute chez soi. Ce n'est pas la même proposition, me semble-t-il.
Ce que moi, je trouve très important, et je suis totalement d'accord, c'est que si on utilise le numérique pour, disons, traduire une institution dans le réseau, pour moi, il s'agit toujours de trouver une originalité. Ça peut être les contenus artistiques, mais je ne veux pas répéter ce que vous venez de dire, c'est tout juste, à mon avis. L'autre point que je trouve toujours intéressant, que je regrette, que pour moi, une institution, c'est les contenus, c'est les objets, s'il s'agit d'un musée, mais c'est aussi les compétences et le savoir des équipes. Et moi, je regrette vraiment beaucoup que ces savoirs qui sont tellement intéressants et souvent uniques sont si rarement partagés. Et si je fais un lien avec un peu une mode Clubhouse, c'est pas qui parle de cette application qui est complètement branchée actuellement, où des gens font rien d'autre que d'être dans des chat rooms où on discute. Ça veut dire une grande partie du temps, on écoute. J'ai suivi un discours sur le racisme hier soir. Il y avait 600 personnes dedans. Il y avait 5-6 experts qui ont parlé. Puis le public pouvait participer. C'était rien qu'une discussion. Et je me dis, et moi j'ai le privilège de très souvent parler avec des gens comme vous, avec d'autres qui sont ces spécialistes. Mais je suis sûr que je ne suis pas le seul qui est intéressé. Et ça, par exemple, d'ouvrir un chat room du musée où on parle de couleurs, où on parle je ne sais pas de quoi. Ça, c'est à mon avis... complètement sous-estimé comme potentiel, c'est très proche de l'institution, mais ce n'est pas pour remplacer les visites des expositions. Et je pense que ce qu'il faut développer, c'est vraiment une distinction très claire, de dire ça c'est vraiment le lieu du numérique. Aussi, il ne faut pas oublier quelque chose qu'on n'a pas encore touché, que si on est ici à Lausanne et on ouvre un chat room, il est d'un coup mondial. Donc on parle avec tous les gens qu'on veut, si on veut. Tandis que l'exposition doit être sur place et il faut venir pour la voir. Donc je pense que cette distinction, il faut la défendre, sinon on se perd.
Mais il faut créer aussi, je crois, du contenu spécifique. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup créé d'événements de ce que j'appelle le débat d'idées, où les gens viennent et défendent des questions esthétiques, géopolitiques, littéraires, etc. Et en fait, ce sont des formes qui se prêtent très bien, comme vous l'avez dit, à l'exportation n'importe où, à partir du moment où on sait faire, où c'est bien filmé. Moi, je l'ai vu dans les propositions vraiment où il y a deux personnes qui débattent d'un sujet, genre le Maghreb aujourd'hui et l'état du monde, que sais-je. Et en fait, les gens, ils suivent, comme vous le disiez, ils suivent. Et je pense qu'il y a la question des questions esthétiques, les questions en lien avec le patrimoine, les questions en lien avec les musées. Et le nombre de choses que touchent les propositions, les œuvres qui seront dans ces trois musées, sur ce site, est tel que vraiment l'ouverture, si on veut, sur le monde, elle peut être très importante.
Ça veut dire que ce lieu, c'est aussi, ça m'intéressait d'entendre, ou cette plateforme, un lieu du débat pour vous. Ou est-ce que le débat vient par hasard, ou quelquefois, si c'est provoqué par une thématique, ou c'est une ligne conséquente de dire non, il faut vraiment ouvrir le débat, n'importe en quelle direction.
Pour moi, sans vouloir instrumentaliser les œuvres ou les propositions, pour moi, c'est un lieu du débat. C'est un lieu si c'est un quartier des arts et de la culture, les arts, j'ai cité encore récemment Robert Filliou. L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Donc, l'art n'existe pas en tant que tel. Il est produit. Moi, je suis historien aussi de formation. Il est produit d'un contexte sociopolitique, géographique. Voilà, et il y a des tout ce que l'on montre raconte quelque chose qui est à la fois de l'ordre de l'œuvre, à la fois de l'ordre du choix, de la manière de le présenter, et de la résonance que ces œuvres ont aussi entre elles, et du contexte dans lequel on est aujourd'hui. Et je pense que cela prête à de nombreuses discussions, et pour moi, le débat, la discussion, l'analyse, ce sont des composants très importants de ce site. Moi, j'aimerais qu'il y ait très fréquemment des rencontres qui ne sont pas juste « on fait une exposition sur Vienne, donc il y a une visite guidée ou un débat avec un spécialiste de la Vienne 1900 ». Je veux dire, là, le propos, c'était la peau, la nudité, le rapport au corps. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, quoi.
Ouais, je pense, pour revenir au numérique, parce que je trouve vraiment que si on revient à une idée qui était, à mon avis, le numérique tout au début, le web, c'est un lieu démocratique, un lieu du discours, du débat. Il faut encore s'approprier ce lieu pour la culture. C'est encore trop peu fait, à mon impression. Et Covid, toute cette pandémie était aussi une chance de tester, de voir qu'il y a des formats qui ne fonctionnent pas du tout, qui sont vraiment complètement ennuyeux. Il y a d'autres qui connectent, qui interconnectent, mais qui font vraiment parler et qui gagnent aussi une profondeur. Donc, je pense que ce qui serait très beau en culture, si on ne fait pas un contraste entre numérique et profondeur, ce qui est souvent fait, mais si on se dit pour quelle profondeur on peut utiliser les moyens numériques. Et ça, c'est à mon avis un travail à faire dans les années à venir, sans préjugés, mais aussi avec une distinction.
Ouais, d'autant plus que l'expérience muséale aujourd'hui, elle est. Il faut, je ne dis pas qu'elle doit être réinventée complètement, mais elle doit être à la fois transformative des gens qui passent ici, mais elle doit continuer à se transformer. On sait que les musées ont une histoire quand même assez récente et leur évolution, elle existe. Il y a une histoire des musées et il faut continuer à participer à ça, me semble-t-il. On doit être aussi les acteurs de cette réflexion. Parce que vous connaissez ça mieux que moi sur la Suisse, sur les pratiques des Suisses en culture. C'est un pays quand même qui a les moyens, avec des niveaux d'éducation qui sont importants. Donc il y a encore un public, on va dire. Dans d'autres contextes, comme en France par exemple, tous les 10 ans, il y a une grande étude des publics et de la consommation de pratiques culturelles françaises. La pratique patrimoniale, elle est très largement en perte de vitesse, mais vraiment et très rapidement. La pandémie, elle n'est pas en train d'accélérer ça, elle est en train de révéler ce que les études ont montré. C'est-à-dire qu'il y a une désaffection quand même d'une partie du public pour le rapport au patrimoine, mais que ce soit les visites dans les musées ou l'opéra. C'est-à-dire que la crainte, ou en tout cas ce qu'il faut qu'on travaille à éviter, c'est qu'on se retrouve dans les sites comme ça, comme l'opéra, c'est-à-dire des projets, j'ai rien contre l'opéra, mais ce sont des projets qui en réalité attirent 2, 3, 5% malheureusement de la population et qui sont des projets de prestige. Et il ne faut pas que ce plateforme 10 ce soit un projet de prestige uniquement. On peut être fier de ces bâtiments, on peut être fier de ces collections, mais c'est leur vie qui va vraiment être importante. Les œuvres n'existent que parce que les gens les voient. Il y a un arbre qui tombe dans la forêt, s'il n'y a personne pour l'entendre, il ne fait pas de bruit. Je crois vraiment qu'il y a le public, il participe. Il a déjà une forme de participation lorsqu'il vient ici. La question de la manière dont le public influe sur le contenu du musée, c'est sûr qu'elle se pose. Je ne suis pas sûr d'avoir des réponses toutes faites par rapport à ça. Je ne sais pas aujourd'hui, alors qu'il y a vraiment une mode de la co-construction, du participatif, que les gens ont leur mot à dire sur tout et sur rien. Bon, moi, je suis peut-être encore là, pour le coup, un peu d'une ancienne école, qui est celle un peu du vote par les pieds, quoi. Vous rentrez, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez sortir. Mais, en fin de compte, les gens qui proposent des projets, ce sont des professionnels de la culture, en fait. Ce sont les artistes, ce sont les commissaires, ce sont les médiateurs, ce sont les gens de la communication. La crainte peut être infondée que je peux avoir, mais peut-être qu'il y a des pratiques et des expériences dont je tirerais à l'enseignement volontiers, c'est que les gens s'improvisent, sachant, si on veut. Dans le domaine culturel, on est fréquemment confronté à moi, j'aime ou j'aime pas, et ça fait c'est acte de décision. Monter une exposition, c'est un vrai travail. C'est-à-dire que si vous avez un ami qui est passionné par le squelette, vous n'allez pas aller chez lui juste pour vous. Enfin, il n'est pas médecin. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il faut reconnaître la spécificité des équipes et des métiers qui font des métiers de la culture et des métiers des musées. Et donc, la question de savoir comment le public il influe sur nos métiers, moi, je pense qu'elle n'est pas résolue. En tout cas, je n'ai pas de piste aujourd'hui qui me semble satisfaisante.
Je me souviens, si on parle de cette question, la dernière fois que j'ai été ici, c'était juste avant la fermeture des musées, il y a quelques semaines. Je suis passé avec ma maman par la collection et j'ai vu une œuvre que j'ai adorée de suite, jamais vue avant. Et puis je me suis approché, je regardais c'est qui, c'était un artiste neuchâtelois. Et je dois admettre que j'étais surpris. Je me suis dit, oh, quelle surprise! Je pensais c'est un artiste mondial, je ne sais pas quoi. C'était très typique. Parce que moi aussi, je suis formaté par une certaine idée d'art mondial, de haute qualité, de renommée, etc. Et je pense que si on parle de patrimoine, il faut se débarrasser d'un certain complexe. Non, qui existe souvent, c'est qu'on est dominé en culture par les grandes capitales, par bien sûr les États-Unis, tout cela, rien contre. Mais de reconnaître, de retrouver peut-être aussi, surtout si on va fouiller un peu dans les collections, qu'il y a des œuvres méconnues ou pas connues du tout, qu'on peut mettre à côté de ces autres œuvres qu'on connaît. Et d'un coup, ça commence à dialoguer. On est de nouveau dans la question du dialogue, de l'échange, du débat. Et je pense que ça, c'est vraiment une grande chance parce que j'ai l'impression, moi, je ne connais pas du tout cette collection. Je connais ce qui est connu, mais le reste, je ne connais pas. Je suis sûr qu'il y a des choses à découvrir. Mais ce travail de découverte qui, pour moi, n'est en rien participatif ou quoi. On peut peut-être ouvrir, dire, venez à la collection, choisissez, ça serait intéressant. Mais c'est pas la solution, je crois. La solution, c'est vraiment dire d'aller chercher et de se libérer d'une certaine formation qu'on a reçue, ce qui définit notre qualité. Je pense que ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai vraiment découvert et j'ai été très frappé et j'ai beaucoup aimé ce moment. Parce que vraiment, malheureusement, j'ai oublié le nom, c'est typique, mais c'était pour moi la découverte de cette visite dans une collection quand même très, très belle.
C'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, quand on pense au musée de l'Élysée, qui est un musée de la photographie, tout le monde fait des photos tout le temps. Mais nous ne sommes pas tous photographes. Quoi. Voilà. Et je crois que c'est assez... Pour moi, on peut utiliser les photos des gens dans certains contextes. On peut leur demander de participer, si on a des idées, des points d'entrée intéressants. Là, le musée de l'Élysée, par exemple, a produit avec Werner Jäger, hein, qui est un grand graphiste, des affiches depuis des années, très belles affiches. Et ils ont demandé, par exemple, aux gens qui ont ces affiches chez eux, très souvent, il y a des affiches du musée de l'Élysée dans le salon, dans la cuisine des gens, de faire des photos de ces affiches en situation. Et ça a été envoyé au musée et ça a été commenté par le graphiste, qui raconte l'histoire de l'affiche, le rapport à ce qu'il y a autour, etc. Ça, par exemple, pour moi, c'était une idée qui venait à la fois créer de la participation, une forme d'appropriation aussi de ce qui était présenté, mais qui ne venait pas, si on veut, donner des lignes au projet culturel d'une certaine manière. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il faut présenter des choses que les gens ne veulent pas voir parce qu'ils ne savent pas qu'elles existent, hein, comme vous avec votre artiste neuchâtelois. Si on veut voir des choses que l'on connaît, il y a d'autres lieux pour ça, me semble-t-il. Il y a des lieux qui, moi, personnellement, ne m'intéressent pas et qui, je pense, ne nous font pas sortir de notre cadre de réflexion habituel. Voilà, vous pouvez voir des... Il y a des formats types, hein, des romans, les romans de gare, certains romans policiers, certains films de super-héros, que sais-je, qui sont des choses qui sont du domaine du confort, si on veut. Et sans créer de l'inconfort ici, je pense que la découverte, elle est importante.
La découverte, je suis tout à fait d'accord. Puis après, quelque chose qui m'intéresserait, je pense qu'un danger qui existe dans un musée, c'est qu'on peut trouver des produits parfaits. J'ose parler de produits, même si je respecte complètement l'art, bien sûr. Mais je pense que la position de l'artiste vivant, elle est très importante. soit local, soit régional, national, soit international, pour dire ce que vous voyez ici comme résultat. Ces processus sont aussi faits dans cette région. On crée aussi sur place. On fait des recherches ici parce qu'on risque de déconnecter, non? On va admirer ce qui était fait quelque part. Non, ça se fait partout. Moi, j'ai couru hier soir en descendant vers le lac et j'ai vu la maison de cet artiste sculpteur dont j'ai oublié le nom. Mais la maison est encore là. On voit les sculptures de dehors. Il y avait la lumière. Et j'étais en train de courir. Je me suis dit, wow, c'est un artiste qui a créé ici, à Lausanne. Et ce moment, il est important. Ce qu'on voit ici, c'est en principe fait aussi ici. Et je pense que si vous avez parlé d'artistes vivants, d'intégrer aussi, d'inviter les artistes, je pense que comme institution, comme un musée, il est important de jamais oublier l'artiste vivant, non?
Moi, je suis alors vraiment à 100% derrière vous. Je pense qu'aujourd'hui, on a, d'autant plus aujourd'hui, il y a une crise importante, hein. Économique qui touche les gens du domaine de la culture, les artistes visuels en plus souvent qui sont avant tout notre domaine ici, pas seulement mais avant tout, ils n'ont pas forcément les mêmes protections sociales que d'autres domaines, ils n'ont pas les mêmes possibilités de continuer à se produire ou à produire des œuvres par exemple en ligne. Donc on est dans des difficultés, je pense, assez importantes et il faut les accompagner. Je pense que notre rôle, c'est pas être les gardiens du temple. C'est-à-dire que tous ces les artistes qui exposent ici, alors il y en a beaucoup, heureusement, qui sont des artistes vivants, et la vision des trois musées, que ce soit l'Élysée, le musée d'art design et appliqué, et le musée des Beaux-Arts, sont vraiment très en résonance avec les artistes d'aujourd'hui, les artistes actuels. Je pense qu'on peut continuer à développer ça. Vous aviez évoqué rapidement, mais aussi dans votre texte, la question de la recherche, qui, moi, me semble très importante. Celle-là, aujourd'hui, me semble-t-il, on peut, avec les musées, faire une différence. Parce que les gens qui travaillent ici, beaucoup sont les conservateurs, sont les historiens de l'art, ont une vision panoptique et rétrospective de ce domaine, de ces différents domaines. Et la recherche en art, aujourd'hui, c'est... Ici, on est dans l'idée de ce qu'on appelle la diffusion. C'est là où on présente les œuvres. Il y a évidemment la production qui se fait dans les ateliers d'artistes, etc. Mais en amont, il y a la recherche. Et la recherche, ce n'est pas faire des esquisses. C'est un processus, une méthode qui peut être reproductible et qui donne un produit qui n'est pas forcément l'œuvre elle-même, qui est une matière à réflexion. Et je crois que prochain défi, c'est de participer au soutien à cette recherche-là.
Ouais, je trouve ça très bien ce que vous dites. Et pour moi, lié à cela, il y a la question de la distribution du savoir. Parce que la recherche, elle mène toujours à un savoir. Ce n'est pas seulement le savoir qui existe déjà dans toutes les équipes magnifiques, mais c'est aussi la recherche qui mène à... J'ai compris que ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne. Nouvelle méthode, nouveau format, n'importe quoi. Et c'est quelque chose que d'ailleurs, nous aussi, on réfléchit beaucoup. Je prends l'exemple des résidences. Je trouve ça un format de soutien très, très beau encore, les résidences. Mais qu'est-ce qui se passe après une demi-année de résidence en Amérique du Sud? L'artiste revient, il nous fait un petit rapport et c'est fini. Et moi, je sais, et tout le monde sait, elle a fait une demi-année d'expérience, de rencontres. Et ça me fascine, cette question. Il ne faut pas toujours publier des livres, surtout, c'est clair. Il ne faut pas toujours ouvrir un blog. Mais on n'utilise pas ces savoirs qui sont créés en échange pour après, de nouveau, parler du monde, parler de nous-mêmes, de la société, etc. Donc, je suis très content d'entendre que la recherche, elle est importante pour vous. Pour moi, viendrait tout de suite après la question du partage du savoir.
Alors, je crois que c'est très important parce que le partage du savoir... Dans la recherche, il est intrinsèque. C'est en ça que ce n'est pas quelqu'un chez lui en train de faire des photos ou de dessiner dans son atelier, etc. Puisque dans la recherche, il y a un livrable. Et ce livrable, il doit être partagé. C'est le principe de la recherche, c'est-à-dire que vous publiez ou pas sur Internet, peu importe. Et après, vos pairs ou le public a accès à ce que vous avez fait. Mais c'est aussi parce qu'il y a de l'argent public, mais c'est aussi ce qui fait avancer le domaine. Et en fait, ce partage d'expérience, il est essentiel.
Nous espérons que ce dialogue inspirant vous a plu et nous vous invitons à découvrir les autres articles de la publication Regard, édité par la Fondation Lennartz. Vous pourrez lire une interview de l'écrivaine et ancienne politicienne Anne-Catherine Ménétré-Savary au sujet de la place des seniors dans la société en cette période de coronavirus. Un éclairage du professeur Daniel Schneidegger sur le système de santé et sa nécessaire évolution. Et encore une carte blanche laissée à l'écrivaine Marina Skalova où elle partage un extrait de son roman en cours d'écriture, Nina. Vous y découvrirez aussi un portfolio consacré à l'artiste Jean-Luc Mens. Alors, rendez-vous sur lennartz.ch et encore un grand merci pour votre fidélité.